Et nous regarderons ensemble un thème qui quand même va faire la suite de ce que Wayne a partagé la semaine dernière, de ce que nous avons vu ensemble le dimanche précédent. Donc il y a 15 jours, on avait vu que Dieu veut notre sanctification. La semaine dernière, on a vu que Dieu veut une réponse personnelle de notre part face à la grâce qu'il nous offre. On en a d'ailleurs entendu parler encore par la voix de l'Esprit ce matin dans le culte. Et donc ce matin, nous allons regarder un petit peu la mise en pratique de ces deux choses, de notre sanctification, de notre réponse devant la grâce de Dieu. Et nous allons donc voir comment Dieu a prévu qu'on puisse vaincre notre chair. Et donc, comme je disais, on va commencer par la lecture du psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc, je vous encourage particulièrement si ce matin vous aviez l'impression que la parole qu'Alain a partagée te concernait, puisque donc ce que nous allons voir ce matin, c'est ce que Dieu a prévu pour qu'on puisse vaincre le péché, vaincre la chair, vaincre les œuvres de notre chair, ou comme dit Jean, vaincre les œuvres du diable, finalement. 1 Jean 3, verset 8, celui qui pratique le péché, qui vit dans le péché, donc qui fait l'habitude de sa vie de vivre dans le péché et du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Seigneur veut donc notre sanctification, il veut qu'on puisse vaincre notre chair parce qu'il est paru, il a paru afin de détruire les œuvres du diable, y compris donc ce péché habituel ancré dans notre vie. Mais ce que nous voyons dans ce premier psaume, c'est que la première étape de cette victoire, la première chose qui va nous mener à la victoire, c'est de connaître la parole de Dieu. On a besoin de connaître sa parole, de connaître ses définitions des choses, parce que dans Romains 10, verset 17, l'apôtre Paul dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Les œuvres de notre chair vont être vaincues par la foi. Mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On a donc besoin de connaître, d'entendre sa parole si nous allons vaincre notre chair. Jésus-Christ est apparu non pas simplement pour nous donner une meilleure qualité de vie, pour nous fournir une réponse instantanée à tous nos besoins. Il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Il nous sauve dans cet objectif. Pour cela, on a besoin de foi et pour cela, on a besoin de la parole du Seigneur. Alors nous savons, et on a vu à plusieurs reprises ces dernières semaines, que la grâce de Dieu et le salut commencent par le fait de croire dans la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Le fondement de notre salut, c'est de croire que Jésus-Christ est mort pour les pécheurs, que Christ a porté dans son corps, sur la croix, notre péché, notre culpabilité, que lui a accepté de se mettre à notre place, de devenir notre substitut, de porter notre condamnation, de subir la mort qui est le salaire de mon péché. C'est pour cela que l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens en disant « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Tout commence là. Je ne pourrai jamais, par mes efforts, tordre le bras du Seigneur pour qu'il m'accepte, pour qu'il me justifie, pour lui prouver que je suis suffisamment bon pour mériter quoi que ce soit de sa main. Si c'est là mon espoir d'être sauvé, si c'est en me comparant avec mes voisins, avec mes collègues, avec d'autres personnes, je suis perdu d'avance. Parce que la Bible me dit que la seule comparaison que je puis faire pour être sauvé, c'est de me comparer à Jésus-Christ, qui lui a été tenté en tout point comme nous, et pourtant sans commettre de péché. Donc à partir du moment où je ne suis pas à la perfection de Jésus-Christ, mon seul espoir, c'est de croire que Dieu m'aime suffisamment pour vouloir me faire grâce et qu'il me fait grâce à travers l'œuvre de Jésus-Christ. C'est donc, cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, dit l'apôtre Paul. Et ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Personne ne peut dire « c'est parce que je suis suffisamment bon, c'est parce que je fais ceci, c'est parce que je suis meilleur qu'un tel que je suis accepté. » Ce n'est point par les œuvres. Personne ne peut se glorifier. Mais par la suite, après nous avoir dit qu'il nous fait grâce, que Jésus-Christ a pris nos péchés, que c'est puisque Christ est mort que nous sommes justes. En même temps, dans le même passage, dans le verset suivant, Paul nous révèle l'objectif de Dieu en nous faisant grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu donc, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu nous dit dans sa parole qu'il nous fait grâce, il nous prend tel que nous sommes, il prend des pécheurs, il nous justifie par sa grâce à cause de son amour, sur le fondement de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, mais non pas dans l'objectif qu'on continue à pratiquer les œuvres de la chair. Non pas dans l'objectif qu'on continue à pratiquer le péché. Parce qu'il dit que celui qui pratique le péché est du diable. Et que Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, il nous fait grâce pour qu'on accomplisse les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes sauvés par la grâce dans le but d'être transformés, dans le but d'être changés, dans le but de devenir comme Jésus-Christ. Pour cela, dans Matthieu 5, verset 16, Jésus, en disant aux chrétiens, « Vous êtes la lumière du monde », il dit, « Il ne faut donc pas que votre lumière soit cachée, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient, quoi ? Vos bonnes œuvres. » L'objectif de Dieu en faisant de nous des chrétiens, C'est afin qu'on pratique les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance et qui glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il nous sauve par sa grâce dans le but de nous transformer. Donc, comme Wayne l'a dit, entre deux commentaires sur les gens dimanche dernier, il est difficile de dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas sa loi, si on n'aime pas ses voies qui sont le reflet de qui il est. Seigneur, oui, je t'aime, mais je déteste comment tu es. Ça n'a aucun sens. Je t'aime, Seigneur, mais je voudrais vivre complètement à l'opposé de toi. Moi, ce que je désire, c'est une vie qui ressemble à tout ce que tu détestes et qui ne ressemble pas à ce que tu aimes. Ça n'a aucun sens. Comment aimer Dieu à ce moment-là si on n'aime pas sa loi, si on n'aime pas ce qu'il dit, ce qu'il est? Pour ça que le psalmiste pouvait dire que le juste trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Parce que la parole de Dieu, la loi de l'Éternel révèle qui est notre Dieu. Normalement, si on aime quelqu'un, on aime sa personne. Donc on aime sa parole qui le révèle à nous. Pour ça que Jésus a pu dire dans Jean, des chapitres 14 et 15, donc à plusieurs reprises, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Versets 23 et 24, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Dans le chapitre 15, verset 10. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Verset 14. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, si vous obéissez à ma parole. » Si on veut garder sa parole, si on veut obéir à ses commandements, avant tout, on a besoin de les connaître. La foi chrétienne est ce qu'on appelle une foi révélée. Ce n'est pas juste une religion humaine où on cherche en soi-même et où on dit « qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce que j'aimerais offrir à Dieu ?» On revient finalement à l'histoire de Caïn et Abel. Un qui apporte le sacrifice que Dieu avait démontré dans le jardin d'Éden, l'autre qui voulait apporter ce que lui, il avait envie de faire et d'apporter. Dieu nous révèle comment on peut lui exprimer notre amour. Ce n'est pas à moi de faire ce que j'ai envie de faire ou ce qui me procure un bon sentiment à l'intérieur de moi-même. Dieu me sauve pour que je fasse ce que lui me demande de faire, et c'est cela ce qui lui fait plaisir. Donc j'ai besoin de connaître ses commandements, de connaître sa parole. Pour ça qu'on le lit de préférence tous les jours. Non pas par religiosité pour pouvoir cocher la case, pour dire ça y est, j'ai fait mon devoir d'aujourd'hui, mais parce que j'ai besoin d'écouter la voix du Seigneur qui me montre comment lui exprimer mon amour, qui me montre ce qu'il désire de ma part, qui désire me parler. J'ai besoin donc de les connaître, et puis j'ai besoin de réfléchir pour savoir Alors Seigneur, toi qui as révélé les choses dans un contexte historique particulier, il n'a pas écrit juste un livre de théologie systématique qui s'applique à tous les temps, il l'a montré dans un contexte particulier en parlant à des personnes qui ont existé dans l'histoire avec leur vie, avec leurs expériences. Donc j'ai besoin aussi, après l'avoir lu, de réfléchir alors, qu'est-ce que Dieu veut dire? Comment maintenant est-ce que moi, au Luxembourg, en 2023, je peux vivre cette parole pour faire plaisir au Seigneur et pour garder ses commandements? Qu'est-ce que Dieu demande de moi? C'est pour ça qu'on médite la parole de Dieu, pour que ça entre en nous et pour qu'on sache comment vivre. Le juste trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. Il réfléchit. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu veut produire dans ma vie? Comment Dieu veut-il que je vis aujourd'hui? Et donc, après le fait de connaître la parole, il y a besoin donc de croire à la parole. Comme disait justement Wayne le dimanche dernier, il faut mélanger de la foi à la parole de Dieu au point de la mettre en pratique. L'apôtre Paul pouvait dire en Romains 1, versets 16 et 17, « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » J'ai donc besoin de croire que ce que Dieu dit est vrai, afin de vivre par la foi. Je dois croire que Jésus est mort pour mes péchés. Cette foi par laquelle je vis croit que Jésus est mort pour nos péchés, mais croit aussi que Dieu me montre dans sa parole ce qu'est le péché et ce qu'est sa volonté. Ce n'est pas à moi de me disputer avec le Seigneur en disant, Seigneur, là, je suis pas d'accord avec toi. Toi, tu appelles ça péché, mais je suis pas d'accord. Moi, j'appelle ça, bon, soit un reflet de mon caractère, je suis comme ça. Dieu, d'ailleurs, parfois on dit même, Dieu m'a fait comme ça. Non, Dieu ne t'a pas fait comme ça. C'est le péché qui nous fait comme ça, parce que nous sommes nés dans le péché. Dieu avait créé l'être humain parfait, sans péché. Le péché nous déforme et l'œuvre de Dieu, à partir du moment où nous mettons notre foi en Jésus-Christ, c'est de transformer cette déformation que le péché a effectuée en nous. Donc nous ne pouvons pas nous cacher derrière l'excuse, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. Je suis désolé, mais ça se relève presque du blasphème de dire que Dieu a créé mon péché. C'est ma chair qui crée ce péché en moi et qui se plaît dans ce péché en moi. La foi croit que Dieu me montre ce qu'est le péché et donc ce dont je dois me débarrasser. Ce péché, comme des Hébreux, qui s'accroche à moi et puis me montre sa volonté. La foi croit Dieu lorsqu'il dit qu'il y a une différence de vie entre les justes et les méchants. Nous venons de le lire dans le psaume. Les justes sont ainsi, les méchants sont ainsi. Il n'y a pas de gris, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas d'excuses. Il dit il y a ou il doit avoir une différence de vie entre les justes et les méchants. On ne peut pas porter l'étiquette de l'un et chercher à vivre comme l'autre. La foi croit aussi qu'il y a deux destinations différentes pour les justes et les méchants. On n'ira pas tous au paradis. On ne disparaîtra pas non plus à notre mort physique. La Bible nous dit qu'il y aura une destinée éternelle pour chacun en fonction de si oui ou non notre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, dit le psalmiste, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. C'est là où donc notre foi n'est pas juste quelque chose de théorique, ce n'est pas juste une étiquette « je suis de foi évangélique ». La foi est quelque chose de pratique, la foi c'est la mise en pratique de ce que Dieu nous dit dans sa parole. Dans Jacques, chapitre 2, Jacques insiste sur l'importance de la mise en pratique de la foi. Il dit, certes, c'est la foi qui nous sauve, mais la vraie foi qui sauve est quelque chose de pratique et non pas théorique. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Dans Romains, l'apôtre Paul nous dit qu'Abraham a été sauvé par la foi. Mais Jacques dit la foi d'Abraham. Abraham avait suffisamment de foi pour mettre sa foi en œuvre, en action. Puisque il avait foi en Dieu, il a fait ce que Dieu lui demandait de faire. Il a fait quelque chose. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Nous avons donc besoin, pour vaincre la chair, pour nous débarrasser des œuvres du diable, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu, de la lire, de l'entendre. Mais nous avons besoin de croire à cette parole, de croire que ce que Dieu dit est vrai et non pas juste des histoires sympathiques à lire, ou un livre religieux quelconque qu'on doit lire. Ça doit véritablement être pour nous la parole de Dieu qui conduit notre chemin. Et donc, puisqu'on croit à la parole, on applique la parole à notre vie. On la met en pratique, on la vit. À nouveau, dimanche dernier, nous l'avons entendu, la Bible n'est pas un livre de réflexion théologique où les hommes ont rêvé de ce qu'ils imaginaient Dieu être. Ce n'est pas un livre philosophique où les êtres humains ont créé un système de vie. C'est véritablement la parole inspirée de Dieu. Où Dieu nous révèle son cœur, où Dieu nous révèle sa volonté, un livre où Dieu nous parle dans notre quotidien. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. La Bible est on ne peut plus pratique dans notre vie quotidienne. D'ailleurs, parfois, les gens, lorsqu'ils se mettent à vraiment lire la Bible, ils sont choqués par les propos qu'ils trouvent dans la Bible, de voir combien la Bible parle des réalités de la vie plutôt que de juste être des écrits religieux qui parlent que de choses religieuses, de découvrir jusqu'où la Bible se mêle à notre vie pratique, quotidienne, personnelle, et cherche à diriger notre vie personnelle. La Bible nous dit que Dieu veut qu'on ait la vie. Dieu veut aussi qu'on sache comment vivre la vie en tant que juste, en tant que sauvé, en tant que racheté, en tant que son peuple. Donc, à nouveau, comme le disait Wade, notre problème principal, c'est notre chair. C'est moi-même, c'est le péché qui est en moi, c'est ma nature humaine qui me donne ces problèmes et qui se rebelle contre Dieu, contre sa parole. Romains chapitre 7, à partir du verset 22, l'apôtre Paul écrit « Je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? » Hébreux, chapitre 12, je l'ai cité tout à l'heure, nous parle de ce péché qui nous enveloppe si facilement. Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18, parle du fait d'être racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. La société va nous dire, pour être quelqu'un de bien, voici comment vivre. Mais ce n'est pas ça notre souci. Mon cœur va me dire, pour être tranquille, pour être bien, voici comment il faut vivre. Mais le cœur, me dit la Bible, est plus tordu que toute autre chose. Son seul remède, c'est la grâce de Dieu qui le lave et qui le transforme. Je dois donc ni écouter le monde autour de moi, ni écouter mon propre cœur, mes propres pensées, ni suivre simplement l'exemple qui m'est donné par les êtres humains, cette vaine manière de vivre que nous avons héritée. Mais heureusement, si on continue chacun de ces passages, Romains chapitre 7, verset 25, après avoir dit « Mais qui me délivrera de ce corps de mort ?» Paul dit « Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement l'esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, car il nous délivre et nous délivrera de ce corps de mort. » Parce que comme on a vu il y a quelques semaines, même si encore, on vit parfois dans des frustrations. Si parfois encore on trébuche, nous avons cette promesse de la part de Dieu que si nous tendons vers la perfection, si nous essayons d'aller de l'avant avec lui, lui, il complétera l'œuvre qu'il a commencée en nous et il nous transformera à l'image de Jésus pour l'éternité. Hébreux chapitre 12, après avoir parlé de ce péché qui nous enveloppe si facilement, l'auteur nous invite à avoir les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Et Pierre, après avoir parlé du fait que Dieu, l'objectif de Dieu, c'est de nous racheter de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, il continue dans le verset 19, « Mais vous avez été rachetés, donc non pas par ces choses périssables, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance repose sur Dieu. » Dieu désire qu'on ait la vie, qu'on sache vivre cette vie. Et donc, il a placé en nous son Saint-Esprit qui cherche à provoquer, à produire la sainteté en nous, qui désire nous conduire dans la direction de la sainteté, qui désire utiliser notre foi dans sa parole, notre foi en lui, en celui qui a dit cette parole, pour vaincre notre chair. Lui, il dit, je viens habiter en vous pour que si vous mettiez votre confiance en moi, si vous osez faire ce que moi je vous demande de faire, je suis là pour vous aider à le réaliser, à réussir et à vivre la vie de quelqu'un de juste à mes yeux. Lui, il veut qu'on collabore avec lui dans le but de vaincre notre chair, de vaincre le péché, de vaincre les œuvres de l'ennemi. Sinon, ben, ça fait plusieurs jours, on entend surtout les porte-paroles israéliens parlant de vouloir vaincre un groupe terroriste. Imaginez un instant le scandale si d'un côté ils disaient vouloir vaincre ce groupe terroriste et si de l'autre on apprenait que l'armée israélienne fournissait toutes les armes que voulait le Hamas pour détruire Israël. Il y aurait un scandale inimaginable. Et pourtant, c'est ce que nous faisons à chaque fois que nous suivons les voies du diable ou de notre chair, plutôt que de suivre la voie de l'esprit et la voie de la parole de Dieu. Nous fournissons à notre pire ennemi tout les armes qu'il lui faut pour continuer à perpétuer ses armes, ses œuvres, cette guerre contre notre chair et contre le Seigneur. L'apôtre Paul dit « Arrêtez de livrer vos membres comme outils pour accomplir la volonté du diable. » Mais utilisez les membres de votre corps pour louer et servir le Seigneur. Pour cela, on a besoin de prendre la parole de Dieu au sérieux. De croire que Dieu dit juste et de croire Dieu lorsqu'il dit qu'il est capable de nous aider à faire ce qui est juste. Mais on a besoin de le prendre au sérieux et de ne pas rire, de ne pas blaguer avec lui et de ne pas le prendre à la légère. Parfois, on lit la parole de Dieu, mais est-ce que vraiment, si quelqu'un regardait notre manière de vivre, il croirait que, ah ben, ces gens, ils croient que la Bible est véritablement la parole de Dieu? Ou est-ce qu'il dirait, bon, il lit ça comme il lise la magazine télé ou autre chose? Matthieu 6, verset 13, par exemple. Mercredi soir, dans la réunion de prière, on a regardé ensemble la prière du Seigneur. Ne nous induis pas ou ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est ce que Jésus nous apprend à prier. C'est ce que parfois on prie. Mais à quoi bon prier cela? Est-ce que vraiment on peut dire qu'on a foi que telle est la volonté de Dieu pour nous, si après l'avoir prié, notre premier instinct, c'est d'aller courir pour chercher le péché. Aller courir dans des endroits où on sait qu'on va se mettre en tentation. Seigneur, ne me soumets pas en tentation, mais moi j'y cours dès que j'ai terminé ma prière. Si je veux prendre la parole de Dieu au sérieux, parfois, prier rien qu'une phrase de la Bible va nécessiter un changement de vie, parfois un changement de compagnie et souvent un changement d'habitude dans ma vie. Heureux, béni l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Parfois, on peut jauger notre état de santé spirituelle en fonction de la compagnie qu'on apprécie. Si je préfère la compagnie des pécheurs, des moqueurs, à la compagnie de mes frères et sœurs dans la présence du Seigneur, je devrais me poser quelques questions sérieuses. Parfois, je sais que la tentation est inévitable. Dans Genèse chapitre 39, nous avons l'histoire de Joseph dans la maison de Potiphar, qui se trouve dans une situation donc où il est face à la tentation lorsque la femme de Potiphar lui demande le prix de venir coucher avec elle. Il ne pouvait pas l'éviter, c'était son boulot d'être là. Parfois, c'est là où on doit prier, Seigneur, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, parce qu'on n'a rien cherché, mais on se trouve, de par les circonstances de la vie, en situation de tentation. Mais généralement, à ce moment-là, vient la question de qui est-ce que je vais écouter? Est-ce que je vais écouter ma chair? Où est-ce que je vais écouter l'Esprit? Dans Genèse, chapitre 39, Joseph a décidé d'écouter l'Esprit. Qu'est-ce qui s'est produit? Lorsque la femme de Potiphar s'est jetée sur lui, il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Notre chair va souvent faire balancer le pour et le contre, le risque et le profit dans l'immédiat. Pour Joseph, il n'y avait pas tant de risque que ça. La Bible spécifie, ils étaient tous les deux seuls à ce moment-là dans la maison. Son mari n'était pas là. Les serviteurs étaient ailleurs. Personne n'aurait rien su s'il avait écouté sa chair et s'était couché avec elle, soit parce qu'il la désirait, soit parce qu'il se disait que, comme ça, il aurait moins d'ennuis et peut-être il aurait des promotions. Mais au lieu de cela, il s'est enfui. Il a écouté la voix de l'Esprit qui s'intéressait à l'état de son âme, qui voulait sauver son âme et sa vie. Et glorifier le Seigneur. On voit ce dilemme dépeint clairement dans Proverbe chapitre 7. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison, et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides. Je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères et se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Encore un exemple, ne nous induit pas en tentation. Joseph, il a couru dehors. Ce jeune homme se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans retenue. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux, c'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. » Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre. Même situation que Joseph. Personne à la maison, tranquille, personne pour voir. La chair se dit, où est le mal entre deux personnes adultes, consentantes? Cela fait de mal à personne. Joseph s'en est fui. Ce stupide, comme dit la Bible, avec son franc-parler habituel, s'est mis tout à coup à la suivre. Mais écoutons la suite. Comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Qui est-ce que j'écoute dans les moments de tentation? Ma chair, qui pèse toutes les circonstances, toutes les conditions, ou la voix de Dieu qui désire le salut de mon âme, qui désire détruire les œuvres du diable? C'est finalement une formule de réaction qu'on peut appliquer à toutes les tentations. La bonne nouvelle de l'Évangile, Romains 8, verset 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. On peut également dire, ça veut dire que l'esprit de celui qui a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché habite en nous. Et peut donc nous aider à écouter sa voix, à suivre les voies du Seigneur pour éviter, pour résister à la tentation. C'est, je crois, dans Tite que Paul a écrit, « La grâce de Dieu s'est révélée et nous apprend à dire non aux œuvres de notre chair. » Mais l'Esprit de Dieu, ce même Esprit qui était en Jésus-Christ, qui a été tenté en tout point sans commettre de péché, ne fera pas les choses comme par magie à notre place. Ce n'est pas le deal qu'il nous a offert. Lui, il veut qu'on collabore avec lui, qu'on se mette à l'écouter, à le suivre, mais il nous laisse libres de faire le contraire. Mais il nous rendra capables d'accomplir la parole de Dieu si nous nous laissons conduire par lui. Il nous rappellera, dit Jésus, tout ce que Jésus a enseigné et dit. Si nous, et c'est une autre raison de lire le plus souvent possible la parole de Dieu, si nous permettons à la parole de Dieu de pénétrer en nous, c'est comme un trésor, et au moment où on se trouve en besoin, le Saint-Esprit agit en nous pour rappeler à notre mémoire la parole qu'il faut pour savoir qu'est-ce que Dieu pense de cette situation. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans cette situation. Et puis, il nous aide à la mettre en pratique si nous nous laissons conduire par lui. Le Seigneur, donc, nous sauve par la grâce dans l'objectif de vaincre les œuvres de la chair, de détruire les œuvres du diable. Pour cela, il nous a donné tout ce qu'il nous faut. Pierre dit, il nous a livré tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous donne toutes les étapes nécessaires pour pouvoir vaincre la chair. Il nous invite à lui faire suffisamment confiance pour s'en saisir, pour les utiliser, pour passer par ces étapes, pour vaincre notre chair qui est si souvent enveloppée de péché et que nous devons dominer et vaincre.